Alors, toujours 0-0 entre le CF Montréal et le FC Cincinnati. On est à la reprise vidéo présentement puisque Joel Waterman vient de recevoir un coup assez dur directement dans les tibias. Donc, on est en train de revoir la séquence, à voir s'il y a matière à carton rouge ou quoi que ce soit. On vous donnera les informations dès qu'on les aura. Maintenant, on s'en va rejoindre Alex Agostino. Salut, Alex!
Hey, salut, Jérémy. Avant de commencer, un autre ancien expo qui peut dire bonjour au Montréalais, Ted Lilly. J'étais, il a pas joué longtemps
lanceur,
à Montréal,
mais
il a lanceur gaucher qui est maintenant avec les Cubs. On était à la même partie. On est allé voir un jeune joueur d'école secondaire à Red Bank Catholic High School au New Jersey. Je l'ai reconnu. À chaque fois que je vois un ancien expo, je vais toujours tenter le coup. Comment ça va? La première chose qu'il me dit lorsque je me présente, c'est quand est-ce que les expos reviennent à Montréal? Il était avec un de ses collègues des Cubs. On a resté une demi-heure après la partie à jaser de baseball à Montréal. Il a dit, j'ai pas été là longtemps, mais ils m'ont acquis. J'ai fait mes débuts là. Puis, salut tout le monde à Montréal. J'ai vraiment aimé la ville. Il dit, tu peux chercher le trouble assez facilement à Montréal. Il dit, pour un jeune joueur. Mais il avait des bons souvenirs. Puis, je voulais absolument, à chaque fois que je vois un ancien expo, là, c'est très, très rare, même, je dirais presque jamais, que ces gars-là, ils n'ont pas le goût de parler de leur temps à Montréal.
Mais Ted Lilly, me semble qu'il avait été changé aux Yankees ou quelque chose comme ça. Là,
oui, on avait acquis Hideki Irabu.
Ah,
on
oui,
a eu
ça.
Des Dodgers en premier dans l'échange qui a envoyé Greg Talanik aux Dodgers. Ensuite, les expos, il n'a pas été là longtemps dans l'ère Gloria Samson. Ensuite, échangé aux Yankees pour Hideki Irabu. Hein, une longue carrière par la suite.
Oui, c'est vrai. Ensuite de ça, il a joué pour les Yankees. Je me souviens, il est passé par les Blue Jays et tout ça.
Les Blue Jays,
voilà.
Les Cubs.
OK. Bon, Alex, il faut absolument parler d'un phénomène qui a lieu présentement dans le baseball majeur, puisque on le voit, là, les moyennes au bâton sont vraiment à la baisse. Là. Je crois que la moyenne présentement dans le baseball majeur, c'est 237. Là. C'est une des moyennes des plus basses de l'histoire du baseball majeur. Le nombre de retraits au bâton aussi est extrêmement élevé. Moyenne de retraits au bâton par match, je parle. Écoutez, à tous les niveaux, là, offensivement, parlant, c'est difficile. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ait des difficultés cette année?
Bon, il y a plusieurs facteurs, Jérémy, mais la première, regarde, c'est la revanche des lanceurs. Durant l'ère stéroïde, il n'y a personne qui disait pauvre lanceur parce que Bonds, Maguire, Sosa et compagnie, les frappaient à 500 pieds, on savait que c'était cool, mais la première, il n'y a jamais eu autant de vélocité dans le baseball majeur. C'est-à-dire, la moyenne du baseball majeur est probablement dans le 95-96. Les releveurs, c'est encore plus. Oui, il y a des lanceurs qui lancent encore 91-92. C'est des vétérans qui font bouger la balle. Le plus que la balle est rapide, moins que tu as le temps de réagir, alors c'est plus difficile. Mais, tout bon frappeur, Jérémy, lorsqu'il sait que c'est une balle rapide qui s'en vient en plein centre, il va, à un certain moment, trouver le synchronisme pour la frapper. Alors, la deuxième chose qui fait la plus grande différence, c'est les balles glissantes, les courbes, le spin, la rotation sur ces tirs-là, la façon que ces balles-là cassent, on voyait pas ça avant. Les joueurs mettent des points de pression incroyables. On parle de glissante à 91-92 milles à l'heure.
Ouais.
On envoyait des bonnes à 82-83. Puis quand tu as une balle qui casse dans la zone de prise à la fin comme ça, il n'y a pas beaucoup de frappeurs qui sont capables de le faire. Ce que j'ai écouté ce matin sur MLB.com, par exemple, Randall Grichuk des Blue Jays, il dit, c'est assez simple, il dit 95% des lanceurs utilisent des substances, il n'y a pas dit illégal, mais c'est des substances qui font en sorte qu'ils ont une meilleure emprise sur la balle. Plus que tu peux avoir une grippe, une meilleure emprise sur la balle, plus que tu vas pouvoir mettre la pression et faire des choses à la balle que naturellement, si tu n'avais pas cette bonne prise sur la balle. Ça, c'est deux. Maintenant, on peut continuer. C'est la façon qu'on enseigne aux frappeurs. Le rétro bâton ne dérange pas. Le gars qui frappe 2,25 avec 30 circuits puis 200 rétro bâtons, il est récompensé par des contrats. Mmh. Et ça part du niveau collégial, du niveau des ligues mineures, comment qu'on enseigne. Et j'ai entendu, je suis content qu'on en parle, j'ai écouté Mike Isler, ancien frappeur des majeurs, qui a longtemps été aussi entraîneur des frappeurs, Al Oliver, qui a 2700 coups sûrs, qui ont passé dans des émissions ce matin, puis il dit c'est aux frappeurs de s'ajuster. Et c'est évident que quand tu as deux prises, puis tu as le même élan, Jérémy, que quand c'est trois balles, aucune prise, ou 0-0, tout ce que tu veux, c'est défoncer la balle. C'est un go au deuxième, pas de retrait, puis tu n'essaies pas de raccourcir l'élan,
t'essaies
de couper le bâton.
T'assurer de faire contact, de même, parce
qu'on, on n'enseigne plus ça. Malheureusement, tu sais, on le voit de moins en moins, mais je pense que ça va revenir, parce que les frappeurs ne pourront pas frapper 210, 215, il y a trois équipes qui frappent à peine 200 comme équipe collective. Je pense que c'est Seattle, Milwaukee puis Texas.
C'est pas très bon pour le spectacle, là.
C'est pas très bon pour le spectacle parce que c'est beaucoup de retrait au bâton. Les joueurs sont aussi bons, sinon, mais sont en forme. Ce sont des machines. Ils s'entraînent. Les lanceurs qui lancent des 96, 98, les Garrett Cole qui lancent des prises, ce sont des gars qui peuvent dominer. Mais ton cinquième partant, là, t'as des frappeurs qui vont devoir mettre la balle en jeu, frapper des flèches. Tu sais, un simple ou un double ou un triple, c'est peut-être pas aussi excitant que la balle qui est frappée à 400 pieds, mais lorsque le coureur est en course du premier vers le marbre, ou le frappeur qui a frappé la balle, puis qui se rend au deuxième but sur un relais, ben, moi, je trouve ça excitant aussi. Puis je veux pas dire, je veux pas parler comme un vieux, là, que le baseball était meilleur dans les années 70. C'est pas ça. Mais c'est jamais mieux voir des fois des courts et frappes, un vol de but.
C'est
un amorti bien placé. Je suis pas un gars qui veut un amorti à toutes les deux manches,
non,
là.
Non.
Mais un moment donné, bien
faut
placé.
Que ça, faut que ça fasse faire... partie de la stratégie.
Exactement.
Exactement. Je suis d'accord avec toi.
Il faut qu'on change la donne au niveau des ligues mineures, comment qu'on enseigne. Il faut que ceux qui enseignent aux jeunes, tu sais, c'est de frapper à travers la balle. Mais tu sais, le jeune qui a 13 ans, c'est pas un Aaron Judge qui est 6 pieds 6, 230-240 livres de muscles, qui lui, il peut essayer de faire lever la balle puis aller plus loin. Mais si tu apprends, comme Chipper Jones a souvent mentionné, de frapper des flèches, de frapper à travers la balle, avec le temps, quand tu la frappes à bonne place, ces flèches-là deviennent des balles qui s'en vont dans les allées et ce sont des balles aussi, lorsque tu deviens à maturité physique, ça va être des circuits. C'est pas tous les frappeurs qui sont des bons frappeurs de circuits. Puis, écoute, on a des bons, Jérémy. Yermin Mercedes des White Sox, il frappe, il domine. Il jouait dans le baseball indépendant il y a 2 ans. Alors, c'est faisable. Des Shohei Ohtani, oui, c'est peut-être un phénomène. T'as des Nick Castellanos avec les Reds puis Jesse Winker. C'est pas des noms peut-être connus, mais c'est des gars qui continuent à frapper. Moi, je suis persuadé que c'est aux frappeurs de maintenant de s'ajuster parce que les lanceurs ne retourneront pas de bord. Ils lanceront pas 88 demain
c'est
matin.
Sûr.
Ils donneront pas de chance aux frappeurs. Puis on a tellement de données de comment attaquer des frappeurs que... Et les frappeurs, c'est à eux de s'ajuster présentement.
Bon, parlons un petit peu d'Albert Pujols. Là. Premièrement, j'ai été surpris de le voir se retrouver avec les Dodgers parce que je m'attendais à ce qu'il se retrouve dans un club de la Ligue américaine pour qu'on puisse peut-être l'utiliser comme frappeur de choix occasionnellement. Il a déjà frappé la longue balle avec sa nouvelle équipe. Un peu bizarre de le voir dans l'uniforme des Dodgers de l'autre côté, disons, de la ville de Anaheim. Mais comment tu as analysé cette première semaine d'Albert Pujols avec les Dodgers?
Ben, premièrement, oui, ça a été une surprise parce qu'on se disait, bon, il est parti des Angels, puis on disait qu'il voulait pas avoir un rôle de soutien. Tout d'un coup, après avoir un peu savonné Joe Maddon et Perry Benesian, les dirigeants des Angels, il a dit, j'ai jamais dit ça. Il s'en va à Los Angeles, alors il n'y a pas besoin vraiment de déménager, il est
exact.
Tout prêt.
Ouais.
Je trouve que ça a été une bonne semaine parce que là, il y a des gars des Dodgers qui allaient pas trop bien, puis Andrew Friedman a fait un bon travail parce qu'il a joué quoi dans 3-4 parties, il a eu son premier circuit. Il est capable encore de donner un petit peu d'offensive, mais pas tous les jours. Mais s'il en joue une sur deux, puis son apport dans le vestiaire avec des jeunes comme Cody Bellinger qui va revenir d'une blessure, des gars comme Muncy, des gars comme Gavin Lux qui sont là, il pourra donner, tu sais, 20 ans d'expérience, plus de 3000 coups sûrs. C'est un gars qui va encore gagner.
Mm-hmm.
Puis il a même pas dit, je veux pas parler de retraite. Alors, les Dodgers, je pense qu'ils ont comme... ils ont endormi tout le monde, personne n'en parlait, il n'y avait pas de place à Saint-Louis avec son ancienne équipe. Tony La Russa avec les White Sox a une jeune équipe championne, il n'y avait pas de place pour lui. Là, ben les Dodgers, regarde, ben c'est peut-être quelque chose qui peut nous aider, on a déjà une bonne équipe, on sait que c'est un gars qui veut venir ici, c'est ce que les Dodgers ont dit, et depuis qu'il est arrivé, il a dit, j'ai pas demandé de jouer à tous les jours, je vais faire ce que l'équipe demande. Il peut encore jouer au premier but, c'est peut-être pas un gant doré,
mm-hmm.
mais il est encore en bonne forme, mais c'est au niveau du bâton, il a frappé un circuit, puis tu sais, quand tu joues pour quelque chose, t'as un regain d'énergie, tu joues pour une équipe qui se bat pour le championnat, qui ont gagné la Série mondiale l'année passée, ben tu s'en vas pas finir ta carrière dans une équipe de la dernière place parce que
ouais.
tu peux frapper 6, 7, 8 circuits de plus. Un bon coup pour les Dodgers.
OK. Maintenant, parlons un petit peu de Shohei Ohtani. Là. On sait tous que c'est un phénomène du baseball majeur, non seulement parce qu'il frappe avec puissance, ses 14 circuits jusqu'à maintenant, mais aussi ses performances comme lanceur. Écoute, moi, là, je peux pas penser que ce gars-là ne transformera pas la façon dont on va développer des joueurs. Parce que la première question, là, quand tu vas parler à un jeune, puis tu vas dire, ah, ben lui, il frappe pas. Comment se fait qu'il frappe pas? Parce qu'il est lanceur, puis il est pas bon. Mais comment se fait qu'il est pas bon pour frapper? Ben, c'est parce qu'il pratique jamais la frappe. Ça n'a pas de sens, Alex. Pendant toutes ces années-là, on a fait ça, puis on continue de le faire, alors qu'il y a des gars qui ont du talent, qui sont capables de faire les deux.
Ben, avec le si le baseball majeur s'en vient à 100% frappeur désigné, on devrait avoir de plus en plus. On verra peut-être pas des Shohei Ohtani, parce que lui, il vient d'une autre planète. physiquement, en plus, les gars pourraient voler 40 buts s'ils voulaient, là. Je veux dire, mais si on s'en va de ce côté-là, il y a beaucoup de joueurs d'école secondaire, puis même au niveau collégial, qui sont utilisés à toutes les sauces parce que on les a pour peu d'années. Mm-hmm. Là, quand tu arrives dans le baseball majeur, tu peux contrôler dans les ligues mineures, tu as un frappeur désigné, t'as le gars qui lance ses manches, c'est faisable. Alors, nous autres, dans les expos, on a eu Brad Wilkerson, il l'a pas fait, mais quand ils l'ont repêché en première ronde, Brad Wilkerson, il lançait pour son équipe en Floride, il était le releveur numéro un, c'est beaucoup de le faire pendant 15 ans dans le baseball majeur, mais c'est faisable, Shohei est en train de le prouver, mais je pense pas qu'on va voir, on verra pas beaucoup de joueurs le faire, mais je pense que chaque équipe serait capable d'en développer au moins un ou deux qui soient capables d'être, tu sais, à 25 joueurs aussi, là, avec la façon qu'on utilise nos lanceurs, on utilise une tonne de lanceurs dans l'année. Si t'es capable d'avoir un gars qui peut, parce qu'on n'a pas des gros bancs, hein, c'est 3-4 joueurs sur le banc, mais c'est un gars, un lanceur qui est capable d'être utilisé comme frappeur de choix de temps en temps ou frappeur d'urgence, pourquoi pas? Il faut qu'il continue à pratiquer, mais si t'as 15 ans, puis tout ce que tu fais, c'est lancer, t'as jamais pris un bâton dans tes mains, mais c'est sûr que tu limites un petit peu tes choses. Mais la plupart des bons jeunes joueurs, les bons athlètes qui lancent, ils frappent aussi 3-4 dans leur alignement au niveau du baseball mineur amateur.
Alex, je veux dire, t'es un dépisteur, tu le sais, là, dans les petites ligues, là, souvent, le meilleur lanceur dans l'équipe, c'est aussi le meilleur frappeur. T'sais, c'est le meilleur athlète. Ouais, il fait les deux.
Ben, Adam Lowen, choix de première ronde là, de Baltimore, qui a lancé un peu dans les majeurs, il a aussi joué comme joueur de position dans les majeurs, mais lorsqu'il était sur l'équipe nationale, là, c'était le meilleur frappeur puis le meilleur lanceur. Voilà. Donc, tout qui est arrivé au collège, on l'a mis lanceur. Pour ça, il est arrivé dans le professionnel, il a eu mal au bras, on l'a fait frapper. Tu sais, comme à un moment donné, si on avait développé ce gars-là, hey, tu peux lancer dans le collège, il lance une fois par semaine, pas une fois par 5 jours. Ou j'ai entendu aussi que beaucoup de monde aimerait bien ça voir Otani devenir le releveur numéro 1 de l'équipe qui peut être utilisé en fin de match plus souvent que comme partant une fois par 6, 7, 8, 10 jours. Alors, écoute, mais ça prend un phénomène. Puis Lowen, dans le temps, c'était un phénomène, il n'y a pas eu une grosse carrière. Ouais. Mais Otani, c'est en train de prouver que c'est faisable, mais as-tu vu le physique de ce gars-là?
Incroyable.
Quand il frappe une balle, là, c'est comme un coup de fusil. Les Angels sont encore en dernière ou avant-dernière position. C'est ce qui est désolant de ce côté-là.
Oui, au moins, en tout cas, ils ont un show avec Otani. Écoute, on s'en reparlera de Tony La Russa et du code, parce qu'on a beaucoup parlé du code dans le hockey là, récemment, mais on aurait pu en parler aussi dans le monde du baseball, mais on s'en reprendra, Alex. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. On s'en reparle très bientôt.
Ça fait plaisir.
Salut. Bye-bye. Alex Agostino, expert baseball. On fait une petite pause. On va revenir avec Vandril Lefebvre. Même si on n'est pas à la mi-temps là, du côté de Fort Lauderdale, on va pouvoir quand même analyser là, les 40 premières minutes de jeu entre Montréal et le FC Cincinnati. C'est toujours 0-0.